comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Plus près de nous dans le temps et toute proportion gardée, une autre histoire de maintien de l'ordre qui rassemble toutes les mobilisations de ce printemps 2018, Give.
Oui, après plus d'une centaine d'arrestations suivies de gardes à vue immodérément prolongées, la Ligue des droits de l'homme a lancé une commission d'enquête sur plusieurs, je cite, « violations des droits fondamentaux qui se sont déroulées après la manifestation du 22 mai et en particulier avec ceux qui voulaient faire une AG au lycée Arago. » Hier vendredi, les parents du comité du 22 mai, leur soutien, syndicalistes, cheminots, postiers, étudiants étaient présents pour exiger la relaxe des prévenus majeurs qui comparaissaient au tribunal de grande instance de Paris. L'occasion pour nous d'aller faire une petite revue des troupes toujours mobilisées, mais en ordre dispersé alors même que le rythme des réformes ne faiblit pas.
Parcoursup. Parcoursup, moi j'aime bien la notion de parcours parce que ça veut dire qu'ils ont bien compris ce qu'on était en train de préparer pour leur réussite.
Oui, c'est exactement ça. Les CRS qui sont intervenus ici à la Sorbonne.
Un système qui est complètement différent, c'est un système qui est dynamique.
18h ce mardi, une centaine de personnes investissent les locaux du lycée Arago dans le 12e arrondissement de Paris. Quelques minutes plus tard, les CRS débarquent pour les déloger et les interpeller.
Une centaine d'interpellations, dont une trentaine de mineurs, très longue garde à vue.
Des enseignants, d'autres lycéens, des représentants de parents d'élèves sont venus se rassembler à l'extérieur du palais de justice en soutien justement à ces jeunes qui comparaissent aujourd'hui.
T'as pas entendu comme un bruit ?
Comment ?
Hashtag comme un bruit.
Alors François Mailloux, je suis prof de maths au lycée Condorcet de Montreuil.
Alors vous êtes là en tant que quoi ? En tant que militant, en tant que citoyen ou en tant que prof ?
Ben les trois. À Montreuil, le 22 mai au lycée Arago, il y avait 8 jeunes de Montreuil, dont 6 lycéens et des mineurs. Voilà. Et alors, la première manifestation qu'ils font, la première AG qu'ils font, eh ben, qu'est-ce qu'on leur donne en échange ? Ils ont été arrêtés dans un établissement scolaire, ils avaient commis aucune violence, aucune dégradation, aucun vol. Ils ont derrière 5 heures dans un bus surchauffé, sans eau. Suite à ces 5 heures, on les a dispatchés dans des commissariats. Les parents des élèves mineurs, ils n'ont même pas été prévenus. Ils ont été prévenus au milieu de la nuit. Ils n'ont pas eu accès à un avocat. Ils n'ont pas eu accès à une visite médicale. Donc, il n'y a rien qui est dans les normes dans cette affaire-là. Et ça, c'est ce qu'ils reçoivent parce qu'ils ont voulu se mobiliser contre une loi injuste. Voilà. Je suis révolté, je ne comprends pas que cette société elle puisse produire ça. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe ?
Une centaine d'interpellations, des lycéens d'Arago et d'ailleurs, qui n'ont pas trop compris ce qui leur arrivait. Très longue garde à vue.
Tous les parents le disent, ils ont le sentiment que leurs enfants ont fait les frais d'une décision politique pour casser le mouvement étudiant.
On est collectif Jeunes Révoltés, on est à la source donc de ce rassemblement. C'est nous qui l'avons organisé en collaboration avec des gros syndicats, la CGT, des hommes politiques. Alors le collectif Jeunes Révoltés, à la base on est des amis d'un des inculpés d'Arago. Et donc on est au-delà de ça, des jeunes qui sont très engagés dans les manifestations, dans toute, on est très politisés. Et donc on a été outrés par les conditions de garde à vue et ce qui a pu se passer à Arago. Et donc on s'est rassemblés pour organiser le rassemblement devant le TGI.
Pourquoi c'est important ce qui s'est passé le 22 mai à Arago et les jours après avec la garde à vue ?
Parce que, en fait, ça montre quelque chose de très clair, qui est la volonté du gouvernement de décourager la jeunesse qui vont nous traumatiser. Ils savent que les 4 prochaines années, au vu du programme néolibéral du gouvernement, vont être sans doute un petit peu animées. Et si jamais ils arrivent à nous retirer d'ici là toutes les armes qu'on a pour militer et pour se mobiliser, bah, ils auront réussi. Enfin, ils pensent avoir réussi.
Ils n'ont pas réussi. On a conscience des risques quand on part en manifestation, on sait ce qu'on risque. On a toujours des opposants qui disent qu'on y va juste, qu'on bloque pour le plaisir de bloquer, de ne pas passer nos parcelles et qu'on est des branleurs. Mais pas du tout, parce que justement, on ne se fait pas gazer pour rire, on ne se fait pas matraquer pour rire. Mais on sait ce qu'on risque et c'est pas ça qui va nous empêcher d'aller manifester.
Et alors, mais vous ne vous reconnaissez pas dans la Startup Nation ? Je ne comprends pas, vous n'avez pas envie d'être disruptif ?
Pas exactement, non.
Pour l'instant, nous sommes sur un nuage. Pour l'instant, Emmanuel Macron fait un sans faute pour l'économie, pour l'entreprise, pour libérer les talents, pour redonner de l'enthousiasme, pour redonner de l'optimisme aux gens et de l'espoir. Pour l'instant, nous sommes sur un nuage.
Sud-Ouest, 92.
Bonjour à tous. Bon, alors nous, on est une petite délégation de postiers du 92. On est en grève depuis le 26 mars, en grève reconductible. Donc on est venu ici essentiellement pour soutenir les lycéens et les parents des lycéens qui sont au tribunal aujourd'hui.
Alors le rassemblement commence à s'étoffer devant le palais de justice suite au procès des gardés à vue du lycée Arago et de la manif du 22 mai. Et qui je retrouve parmi les nombreux soutiens qui sont ici, les salariés en grève, Sud-Post 92.
Ah oui, c'est complètement naturel pour nous d'être aux côtés des lycéens et des lycéennes d'Arago, parce qu'ils ont été des dizaines de lycéens à être mis en garde à vue pour juste avoir occupé leur lycée contre la sélection. Quelque part, nous, on a notre représentant syndical Gaël Quirante, de Sud-Post 92, qui a été licencié juste pour avoir défendu ses collègues. Donc quelque part, on voit bien que c'est un peu la même question, c'est-à-dire aujourd'hui, dès qu'on se bat pour défendre ses droits, on se retrouve en butte à la répression, parfois la plus terrible. Donc nous, on est là, on est en grève depuis maintenant presque 3 mois, depuis le 26 mars. On est toujours 150, il n'y a eu aucune reprise du boulot, même s'ils ont mis nos fiches de paye, toutes nos fiches de paye à 0€. On continue à se battre pour nos propres revendications, pour la réintégration de Gaël et pour nos conditions de travail, mais on est présent chaque fois qu'il y a des étudiants, des lycéens, des cheminots, des hospitaliers qui sont touchés, parce qu'on sait bien que si on veut au final arrêter tout le rouleau compresseur, c'est pas à nous tout seuls dans notre petit coin de timbre-poste qu'on y arrivera, c'est en essayant de regrouper tout le monde. C'est aussi pour ça qu'on propose à tous les secteurs en lutte de co-organiser une fête qu'on va faire le 23 juin sur les quais de Seine au parc Tino Rossi à partir de 20h. Ça s'appellera Fête la grève générale. La fête, fête de la grève générale.
Bon courage à vous alors. Et on suivra.
Ce tribunal tout beau, tout neuf, avec ses vides propres, en réalité, c'est le tribunal qui exerce une justice de classe, qui s'attaque sur tous ceux et toutes celles qui luttent aujourd'hui. Je pense aux postiers, je pense aux cheminots, je pense aux lycéens, aux étudiants, je pense aux McDo, aux catacombes, à tous ceux qui se battent pour de bonnes conditions de travail pour faire reculer ces lois néfastes, ces lois rétrogrades. Et en parlant de loi rétrograde, il faut parler de la nouvelle loi qui vient d'annoncer le gouvernement. La loi qui vise à foutre 1 an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende à ceux et celles dans les facs qui oseraient bloquer un examen. On n'aura même pas le droit de faire grève, de bloquer ces partiels.
Pendant que les prises de parole se poursuivent devant le palais de justice ce vendredi midi, de l'autre côté, le public se clairsème un peu parce que c'est là où ils font la queue pour pouvoir aller assister au procès. Et voilà, là je vois Amane, la postière en grève du 92 qu'on avait rencontrée avec Gaël Quirante, qui est en train de montrer son sac et qui passe le contrôle de police. Derrière, je vois quelques étudiants, les chevelus de la fac, et puis je vois quelques autocollants CGT. Voilà, les uns et les autres se mélangent un peu. Une espèce de regroupement des luttes et des mobilisations qu'on a suivies au cours de ce printemps animé, qui se retrouve ici, devant le palais de justice, pour voir si certains des étudiants et certains des manifestants du lycée Arago le 22 mai passeront ou non par la case prison.
Je suis Françoise Dumont, présidente d'honneur de la Ligue des droits de l'homme.
La Ligue des droits de l'homme a pris position très tôt après l'arrestation des jeunes et des lycéens et leur garde à vue.
Oui, parce qu'on a eu très tôt connaissance des conditions dans lesquelles s'étaient faites les interpellations. Donc voilà, c'est un peu à partir de ça qu'on lance cette commission d'enquête. Alors l'objectif.
Commission d'enquête que vous lancez.
Oui, une commission d'enquête. Et l'objectif, c'est un peu d'établir la réalité des faits, parce qu'il y a aussi beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur d'éventuelles dégradations, sur...
On a dit que les lycéens avaient saccagé le lycée Arago.
Je pense que ça nécessite qu'on fasse un peu la lumière, parce qu'il n'y a pas que les lycéens qui peuvent saccager. Il y a quelquefois des... Pas toujours, hein, mais il y a quelquefois aussi des interventions policières qui saccagent. Et c'est un peu tout ça qu'on veut savoir. Et puis quand même, si vous voulez, je crois que ces interpellations par rapport à des jeunes qui veulent tenir une assemblée générale pour discuter d'un sujet qui les concerne de manière quand même extrêmement lourde, Parcoursup, je trouve que c'est pas très incitatif à la construction de la citoyenneté.
Mais est-ce que c'est juste ponctuel ou est-ce que ça témoigne de quelque chose au sujet du droit de manifester ?
Ah non, 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 je pense que ça, effectivement, ça témoigne de mise en danger de certaines caractéristiques de l'état de droit. On ne prend pas ça à la légère, hein. D'autant plus que les déclarations que peut faire M. Collomb sur ce sujet-là ou sur d'autres, qu'il faudrait voir à dénoncer certaines réunions, certaines manifestations. J'avais dit aussi que quand on avait 16 ans, on avait mieux à faire que de se réunir dans son établissement scolaire. Enfin, vous savez, M. Collomb n'est pas avare de déclarations, que ce soit sur le droit de manifester, sur les migrants, sur le rôle des associations. On ne fait pas des communiqués de presse tous les jours parce que je pense que ça serait extrêmement chronophage.
Ça serait à bout à plein temps.
Je crois que si on veut garder demain le droit de manifester, qui est une liberté fondamentale, il faut que les personnes qui veulent exprimer leur opinion puissent aussi s'opposer aux casseurs et ne pas, par leur passivité, être d'un certain point de vue complice de ce qui se passe.
Parmi tous les soutiens qui se regroupent dans le palais de justice, pour les garder à vue du lycée Arago le 22 mai, je vous retrouve, vous, Philippe Poutou, alors que vous-même, vous êtes en lutte par ailleurs.
Ben oui, on est en lutte contre la fermeture de notre usine, donc on est en pleine bataille.
Ford, je rappelle.
Ben ouais, l'usine Ford à Bordeaux. D'ailleurs, on va à Cologne le 20 juin tenter une action, voilà, de protestation et en essayant d'être visible. Mais là, aujourd'hui, ben, c'est l'histoire d'Arago. Puis globalement, on fait tous le lien avec la répression qui se généralise aujourd'hui. Ça touche tout le mouvement social, quoi, que ce soit les ZADIS, que ce soit les cheminots, que ce soit donc les étudiants et puis un peu partout. Donc il y a urgence à réagir et aujourd'hui, c'était quand même important d'être là et de dire que le gouvernement, il stoppe toute action de répression, à la fois policière et judiciaire. On en est là, donc on a deux fronts, en fait, hein, le front du côté de la défense de nos droits et en même temps le droit d'expression, le droit de contestation. Et bah oui, on voit bien aussi en même temps qu'on est très fragile et que le rapport de force, il est largement à notre défaveur. On est en position de faiblesse. Donc là, dans cette situation-là, comment on fait ? Bah, c'est important quand même d'exprimer la solidarité, c'est important d'être là le plus possible. Et évidemment, cette convergence des luttes, il faut la construire. On en est loin aujourd'hui, il y a des appels, il y a le sentiment que ce serait bien qu'on y arrive. Il y a la conviction qu'en fait, au bout du compte, il n'y a que ça qui peut faire que ça changerait la donne, c'est qu'on soit vraiment tous ensemble à des millions à gueuler en même temps. Mais on n'en est pas là aujourd'hui, donc il faut discuter, il faut le construire et c'est une véritable bataille là aussi.
Merci, on va pouvoir rester un peu et se tenir au courant de ce qui se passe à l'intérieur, puisque les premières audiences commencent dans son tribunal de Paris. Et en attendant, en avant la musique.
La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif.
D'abord pour les droits de celles et ceux qui ont des droits, et ensuite pour la fermeté pour ceux qui n'en ont aucun.
Dans un état de droit.
Bonjour à tous, ceci est un communiqué de la VADAR officielle de l'Élysée. En ces temps de grève et de manifestation, nous tenons à rassurer la population. L'état de droit du plus fort est toujours le meilleur, comme nous l'allons montrer tout à l'heure. Dans l'immédiat, nous fêtons le printemps. Et notre déficit est sous la barre des 3%. Notre belle jeunesse, pleine d'ambition, se réjouit de la nouvelle sélection qui protège l'accès des universités contre l'assaut des bacheliers. L'occasion pour nos hommes en noir de faire leur entrée au temple du savoir à Bordeaux, Lille ou Strasbourg, tout en douceur, légèreté, amour. Dans le même temps, nos dignes cheminots sont célébrés tels des héros. Leur dévouement au capital est récompensé par un sac à dos social. Les transitions ne vont pas sans violence, mais c'est ça, l'ouverture à la concurrence. Les bénéfices partent sous les tropiques et on garde les coûts pour le service public.
Dans un état de droit.
De l'état de droit. De l'état de droit.
Mettre en cause l'état de droit.
Dans un état de droit.
Que l'état de droit.
Dans un état de droit.
Mathilde Larrère, bonjour.
Bonjour.
Décidément, on n'arrête pas de se croiser, vous ou votre comparse, Laurence de Kock.
Bah, en même temps, c'est normal, vous êtes dans les luttes et nous aussi.
Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est bon, pour être honnête, c'est pas un grand rassemblement, mais il y a des représentants de toutes les mobilisations qui ont plus ou moins essaimé au cours des derniers mois et qui ont fait de ce printemps une espèce de suite continue de mobilisation.
Oui, mais c'est normal parce qu'en fait, là, d'une certaine façon, ça cristallise et ça précipite tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que, ça fait longtemps qu'il y a des violences policières dans les banlieues, ça fait longtemps qu'on criminalise les mouvements sociaux. Et là, on a des lycéens de centre-ville traités comme des jeunes de banlieue dans le cadre d'un mouvement qui est le mouvement étudiant lycéen contre Parcoursup, lequel est lié au mouvement des cheminots, etc. Donc d'un seul coup, tout est là. Donc c'est normal que ça arrive là et qu'on se retrouve tous ici.
Mais ça raconte quelque chose aussi sur les intentions du gouvernement et sa manière surtout de mener le dialogue social dans la Startup Nation.
Dialogue social. Oui, ça montre que l'objectif est de faire peur, l'objectif est de terrifier. Et des jeunes et des parents, c'est facile à terrifier. Quoique, hein, pour avoir parlé avec pas mal de jeunes qui ont été interpellés, ça a plutôt pour tendance à les rendre encore plus virulents. Le risque, c'est l'effet exactement inverse. Parce que quand le premier contact qu'on a avec, soi-disant, l'état de droit, c'est son injustice, ça rend un peu déterminé quand même.
Et alors, l'historienne que vous êtes, est-ce qu'elle voit un parallèle entre le programme de libéralisation massive qui est appliqué par le gouvernement et ce qui s'est passé, par exemple, avec Margaret Thatcher, qui a finalement, en jouant la force, réussi à laminer toute mobilisation?
Oui, non, mais le parallèle, il est facile à faire parce que, de toute façon, les logiques libérales qui sont à l'œuvre dans les deux politiques sont de la même nature. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'Angleterre contemporaine, mais je vois les mêmes logiques rien qu'au 19e siècle. Le libéralisme politique et économique ont toujours avancé de concert et ont toujours avancé avec un bras armé, hein. C'est-à-dire que ça s'est toujours accompagné d'une espèce de rouleau compresseur qui avance en écrasant les mouvements sociaux. Et pour l'écraser, les chaussettes à clous sont efficaces. Hein. Mais les logiques du libéralisme, économique au sens où laisser faire, laisser passer, soi-disant ruissellement, mais en réalité ça ne fait que creuser les inégalités, et politique au sens où il y a un discours, on va dire, démocratique ou de liberté politique, mais en réalité on se rend compte que cette liberté politique, elle est extrêmement restreinte. Hein. Donc c'est vrai que l'histoire des résistances au libéralisme, c'est aussi l'histoire d'une succession d'échecs, mais c'est aussi l'histoire d'une succession d'avancées. Et donc, il faut remettre l'ouvrage sur le métier de la lutte contre le libéralisme. Elle est faisable, elle a déjà été emportée. Malgré tout, en 1947, il y avait eu pas mal de choses. Hein. L'État social avait été posé, faut reprendre le travail. Mais on a le mode d'emploi, en fait.
En tout cas, le résultat provisoire des courses, c'est que le contrôle judiciaire de l'ensemble des prévenus est levé. Ils n'auront plus à pointer au commissariat ou à éviter le 12e arrondissement. La défense s'en félicite, tout en insistant sur le caractère politique des délits pour lesquels les manifestants sont poursuivis. Le procès, lui, est renvoyé au 4 décembre. Le temps pour les avocats et la LDH de préparer leur défense.